Bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis trop heureuse de vous retrouver pour vous partager ça des mois après où enfin je vais mieux. Ça ne veut pas dire que j'y pense jamais, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de douleur ou quoi, mais ça a tellement changé. Et en fait, j'ai envie de poser les mots là-dessus parce que je sais et je sens, et puis même c'est possible tout simplement, que parmi vous, il y a des femmes qui sont en train de traverser une rupture, soit là maintenant au moment où je parle. Genre par exemple, j'en ai parlé le 25, il y en a une qui venait d'être quittée le jour même, donc c'est vraiment fou. Ou alors il y en a, ça fait une semaine, un mois, peu importe. Et j'ai envie en fait que vous vous sentiez moins seule et de vous partager ce que moi j'ai ressenti au moment de ma rupture. Sans remuer la rupture et tout, c'est pas du tout l'idée, c'est pas de vous remuer, c'est vraiment pas ça. C'est plus en fait de poser les mots sur ce qu'on peut ressentir et les questions qu'on peut se poser. Donc je vais aller droit au but, hein, vous me connaissez maintenant. Vous me dites « Ah bah finalement ton audio il est trop court, j'aurais aimé que ça dure plus » alors que moi parfois j'ai l'impression de trop parler quoi. Enfin bref, donc moi ce que j'ai ressenti vraiment, déjà, au début, j'étais dans un choc et un déni total et j'avais l'impression qu'on m'arrachait le cœur en permanence. C'est un sentiment de vide, d'angoisse, de douleur que franchement je ne souhaite à personne. Je trouve que c'est horrible et perso, sauf certaines ruptures où ça s'est passé différemment, qui ont été moins dures pour moi, j'ai toujours eu extrêmement mal lors de mes ruptures. Ça vient réveiller toutes mes blessures d'abandon, de trahison, d'injustice. Non mais vraiment c'est horrible. En mode l'injustice parce que on trouve que la personne est injuste, qu'elle nous abandonne. Ou alors l'injustice parce qu'on se dit mais on n'a pas tout fait, mais on aurait pu faire. Mais comment tu peux m'accuser de ça? Mais moi aussi je te reproche ça, mais moi aussi je t'en veux. Et puis nanini, oh là là. Après il y a l'abandon et le rejet. Donc vraiment le fait de voir son ex changer de comportement avec soi. Je veux dire, on était très très proches il y a quelques temps, par exemple. Alors, c'est pas le cas, hein, là, quand je vous dis ça, mais je vous donne un exemple. Par exemple, savoir qu'on a été très proches avec son ex il y a quelques temps, et puis d'un coup, la personne devient plus rien pour nous. Mais moi, je trouve que c'est hyper choquant, les gens. Moi, je trouve que c'est limite un traumatisme, en fait. C'est hyper choquant. Moi, ça faisait 6 ans, par exemple, que j'étais avec la personne avec laquelle j'étais. Évidemment, il a le droit de me quitter, hein, je le précise quand même. Hein. Mais voilà, donc j'ai été quittée. Moi-même, je pensais aussi à partir, mais je vous avoue que je pense pas que je l'aurais forcément fait parce que, ou longtemps après, parce que moi, je voulais vraiment encore investir des efforts et tout ça. Mais voilà, je pense qu'on n'y arrivait pas. Nos chemins, ils commençaient à se séparer parce qu'on n'avait pas les mêmes envies de vie. On n'était pas dans le même rythme aussi. Ça, c'est un sujet que j'aimerais beaucoup aborder un jour avec vous, tiens. Sur le fait, sur les carrières décalées, le fait que voilà, nous... Enfin, je prends mon exemple. J'ai tout a grossi d'un coup. Alors, j'ai aussi été grave dans la merde à un moment. Mais j'ai quand même eu une carrière qui allait très, très vite. Et j'ai été en décalage avec mon entourage. Et ça, c'est aussi encore un autre sujet. Mais bon, après, il y a des problèmes de fond. Il y a le passif du couple. Il y a les choses les choses sur lesquelles on s'en veut mutuellement. Les problèmes de communication. Et encore, je suis fière quelque part de nous, même si ça me fait mal comment ça s'est terminé, franchement. Mais je suis fière quand même que voilà, on ait essayé de se comprendre malgré nos différences, etc. Enfin, bref. Je vais pas m'étaler sur ce sujet, mais je voulais juste vous dire ce que j'avais ressenti à ce propos. Et il y a vraiment ce choc où en fait on ne sait plus, on est complètement déboussolé en fait. Moi c'est vraiment ce que je ressentais, d'ailleurs j'ai eu tellement d'angoisse et tellement de tristesse que je suis allée chez le médecin parce que je croyais avoir le syndrome, vous savez le syndrome du cœur brisé, parce que quand je faisais juste comme ça, j'inspirais, je ne pouvais pas respirer, j'avais des pics dans le cœur, c'était horrible, genre vraiment c'était horrible. J'avais l'impression qu'on m'arrachait le cœur, littéralement. Et je me réveillais toutes les nuits en mode cauchemar et tout. Enfin, c'était vraiment horrible. J'avais des flashbacks, c'était vraiment affreux, 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 affreux. Et en plus de ça, moi, je luttais vraiment contre la décision, surtout au tout début. J'essayais de l'accepter, mais j'y arrivais pas. Et vraiment, ça a été très, très dur pour moi. J'aurai l'occasion de vous partager ce qui m'a aidée pour sortir de cette lutte-là. Et aussi de quand même avancer, même si... on veut peut-être retrouver la personne. Et ça, c'est un truc que je vois nulle part parce que tout le monde est en mode, il faut pas vouloir récupérer son ex, un ex est un ex, on peut pas reconstruire avec son ex. Oui et non, il y a des gens qui reconstruisent ensemble et tout. Et moi, j'avais vraiment ce truc où Je cherchais pas à absolument oublier mon ex puisque je l'aimais encore et puis je voulais reconstruire en fait à ce moment-là. Après, je me suis dit bon bah non, ok, je laisse tomber, mais en fait c'était pas vraiment ce que je pensais dans ma tête. Bon bref, et donc mon cœur balançait tout le temps entre est-ce que je reste normale et je dis rien? Est-ce que je lui écris ceci, cela? Est-ce que vous savez cette question de est-ce que j'abandonne vraiment et c'est vraiment fini et on reviendra jamais ensemble et il n'y a plus d'espoir? Ou est-ce que peut-être on peut réessayer quelque chose? Et j'avais toujours en fait cette espèce de pensée obsédante, mais ça me rendait ouf. Je vous précise quand même, si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, moi j'ai un trouble anxieux, ok, et j'ai déjà eu des tocs. Et franchement, j'ai l'impression que cette pensée devenait un toc. Clairement devenait un toc parce qu'elle s'imposait à moi vraiment continuellement, continuellement, continuellement. Et il y a des choses qui m'ont aidé à diminuer ça aussi. Ça, je vous en partage, je vous en parlerai. Bah, du coup, j'en profite pour vous le dire maintenant, avant que j'oublie, parce que je me connais. Le 7 avril, le dimanche 7 avril, 9h30, je vous fais un atelier en live avec moi, du coup, où on va parler de tout ça, de comment surmonter une rupture, de tout ce qui m'a aidé à surmonter la rupture. Vous allez pouvoir parler entre vous aussi, entre meufs qui vivent une rupture et... Ah, ça me touche, je sais pas pourquoi j'ai envie de pleurer d'un coup. Bon, je pense que ça m'aurait fait trop du bien d'avoir ça, en fait, tout simplement. Des femmes qui vivent une rupture ou qui sont à une autre étape de rupture, ça m'a beaucoup aidé, moi, de m'entourer de personnes qui venaient de passer par là ou qui étaient guéries vraiment de leur rupture, de leur séparation, ça m'a énormément aidé. Donc je me dis que je peux aussi être cette personne-là pour vous et puis tout simplement vous rebooster, vous donner de l'espoir et que même vous repartiez avec d'autres questions. Que est-ce qu'il m'a aimé? Est-ce qu'on reviendra ensemble? Comment vais-je m'en sortir? Je vais jamais y arriver. Enfin, vous voyez toutes ces pensées qui nous tirent vers le bas et qui nous donnent un sentiment de subir. Et en même temps, vous autorisez aussi à aller pas bien, parce qu'en fait, vous avez le droit d'aller mal et ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Une rupture, c'est un choc. C'est un. Moi, je trouve que c'est un traumatisme, honnêtement, vraiment. C'est un changement de vie. Parfois, c'est un déménagement. Parfois, c'est vivre dans la même maison pour certaines personnes. Moi, ça n'a pas été le cas, mais voilà. Parfois, c'est aussi du ghosting, du silence. C'est plein de choses qu'on ne comprend pas. C'est des réactions de son ex qu'on ne reconnaît pas. C'est toutes ces questions-là. Et j'ai trop envie de vous partager des choses, des questions que je me suis posées, des réflexions aussi pour me mettre, par exemple, dans sa peau, même si je ne peux pas tout savoir à sa place, mais qui m'ont permis de prendre les choses moins personnellement. Et je sens que ça peut vraiment vous apaiser. Donc, voilà, j'ai trop, trop hâte, en fait. J'ai trop envie et j'ai envie cette fois-ci d'en parler plus parce que à chaque fois, j'ai peur de faire trop de com et que ça vous fasse chier. Et au final, ben, y a plein de gens qui sont même pas au courant que j'ai sorti ça et qui auraient aimé venir. Donc, c'est hyper dommage. Voilà, je m'auto-coach là, les amis, en ce moment. Bref, donc voilà les ressentis que j'avais. Et j'avais aussi beaucoup d'idéalisation de notre relation. J'avais vraiment des scénarios en mode ça serait beaucoup mieux si on se remettait ensemble, mais on aurait pu trouver telle solution. Mais si seulement j'avais fait ça, on n'en serait pas là. Mais si j'avais pas dit ça, on n'en serait pas là. Mais si là on avait vu ça, mais pourquoi on voit pas? Et du coup, on essaye d'expliquer et de trouver des solutions. Et parfois, on le dit même à son ex, sauf que l'ex, en fait, on a du mal à le comprendre, mais il a pris une décision. Et il veut vivre l'expérience de vivre sans nous. Ça, moi, j'ai mis très longtemps à le comprendre, vraiment. Et je suis sûre que si vous êtes une hypersensible ou HPI, TDAH, etc., vous devez avoir des pensées en boucle, des ruminations. Vous avez be ce besoin de comprendre et d'analyser. Et c'est dur de ressentir. Et en fait, ce truc-là, il nous défonce le cerveau. Enfin, c'est horrible, genre vraiment. Parce qu'on veut tout analyser, tout comprendre. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Enfin, c'est assez complexe. Mais il y a quand même des analyses où on pourra aller au bout de vos analyses. Et ça, j'ai trop de trucs à vous transmettre. Moi, mon psy, il a compris que j'étais comme ça. Du coup, il allait au bout de mes analyses et ça m'aidait vachement. D'ailleurs, je vous conseille d'être suivi. Franchement, n'hésitez pas à être suivi régulièrement pendant une séparation parce que c'est vraiment une épreuve qui peut être très douloureuse. Et comme je vous le disais, moi, quelques mois après, j'ai vécu en plus le fait que mon petit-neveu était à l'hôpital et ensuite j'ai perdu mon neveu. Voilà. Donc autant vous dire que ça a été une période extrêmement difficile pour moi. Et je vois qu'il y a des choses qui m'ont vraiment sauvé la vie, quoi. Enfin, certes, j'étais pas en mode je vais me laisser tomber, mais il y a des moments, j'avais vraiment des envies noires. Voilà. Et du coup, d'ailleurs, j'ai vu un médecin, on m'a proposé des antidépresseurs, au final, j'ai refusé. Enfin, bref. Franchement, c'était une période super, super dure. Mais j'avais ce ressenti, et dis-moi si tu le ressens, je suis sûre qu'il y a une partie de toi qui sait que tu peux t'en sortir, et qu'il y a une partie de toi qui pense aussi ça peut donner naissance à autre chose. Peut-être que là, je vais avoir un renouveau. Peut-être que je vais trouver des réponses à des questions auxquelles j'avais pas de réponse pendant très longtemps. Moi, tu sais, j'ai parlé pendant très longtemps que je me sentais stagnée, que machin. Ah ben là, je te dis, la stagnation, elle était finito. Hein. Enfin, je stagnais quand même à un moment, mais ça m'a mis tellement un choc qu'en fait, j'ai été obligée de tout remettre en question toute ma life. Hein. Oh my god. C'était intense. Et voilà, je sais que c'est des choses qu'on peut vivre. Il y a aussi les sentiments de vide, le fait de se confronter toute seule à tous ces ressentis, puis d'avoir envie d'écrire à la personne. Mais tu sais, on appelle ça le craving en anglais. Là, c'est en mode, t'es affamé, c'est une addiction. C'est en mode, tu ne peux plus ne pas supporter d'écrire et t'empêcher de parler à la personne devient quelque chose d'extrêmement dur. Alors, si ça peut te rassurer, je n'ai plus ça. Voilà, si ça peut te rassurer, je n'ai plus ça. C'est des choses dont on parlera vraiment dans l'atelier. Mais je pense que ça peut tellement te parler. Et il y a aussi des choses où ça me frustre parce que je peux pas trop vous les dire là. Enfin, je suis pas très à l'aise de vous les confier là. Alors que dans un produit payant et dans un moment où on est tout ensemble, je pourrais vraiment aller plus loin dans certaines réflexions plus intimes. Et j'aimerais pouvoir le faire dans cet espace. Donc ça me frustre un petit peu parce que j'ai envie de vous dire des choses ici. Mais voilà, je les garde plutôt pour un espace plus intime. Et bref, voilà, je te dis donc comment je me suis sentie pendant cette rupture. Et il y a aussi un message. En fait, je crois qu'il y a un message que j'ai envie de te faire passer là maintenant. C'est qu'aussi, t'as pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Et en fait, tu peux pas. Comment te dire? Je comprends que tu t'en veuilles et tout. Mais tu pouvais pas savoir avant de savoir. Putain, cette phrase, elle est trop bien. Elle est trop what the fuck, mais elle est trop bien. Tu pouvais pas savoir avant de savoir, puisqu'avant, tu ne savais pas. Puisque tu n'étais pas passé par là, tu ne pouvais pas voir tes erreurs. Donc, bien sûr que maintenant, tu vois ce que tu as raté, ce que tu aurais pu mieux faire, pardon. Mais sur le moment, tu ne pouvais pas savoir. Et parfois, tu as l'impression que tu pouvais savoir, que genre, tu savais et tout. Mais en fait, non, parce que tu faisais en fonction de tes émotions du moment, les circonstances du moment, ta valeur du moment, ce que tu pensais, enfin, ce qui comptait le plus pour toi, et tu œuvrais pour ce qui compte le plus pour toi, sans t'en rendre compte. Ça, c'est un gros sujet aussi. On agit en fait toujours en fonction de ses valeurs, même si parfois on a l'impression de ne pas les respecter ou d'être pas assez dans ses valeurs. Et dans ce cas-là, bon ben on peut que changer. Mais on ne s'en rend pas compte que on fait toujours ce qui nous semble être le plus sensé, même si c'est pas forcément sensé, quoi. Enfin bref, on en reparlera. Et il y a quand même quelque chose que je voulais soulever parce que ça, du coup, ça peut vraiment parler à des femmes qui vont venir. C'est si vous n'avez pas d'entourage soutenant. Alors, dans le sens où vous avez peut-être des amis quand même qui vous soutiennent, etc. Mais vous avez aussi beaucoup de personnes qui vous renvoient des choses qui vous font vraiment juste mal. Je vais vous donner des exemples de trucs que j'ai entendus, mais franchement, genre au bout de 2 mois ou 1 mois et demi, enfin, je veux dire, on est encore hyper fragile à ce moment-là. Enfin. En plus, moi, j'avais toutes mes journées pour penser. C'était l'été. J'avais ralenti mon entreprise, justement aussi, parce que bah, ça allait pas. Enfin, en fait, il y avait plein de trucs. Et du coup, j'avais énormément de temps devant moi pour penser, pour cogiter. C'était horrible. Du coup, j'ai pris un emploi salarié aussi pour cette raison, pendant quelques temps. Ça m'a fait du bien, mais j'ai senti que c'était pas forcément mon truc. Mais j'ai mis vraiment du temps à me reconstruire un cercle, à voir d'autres gens. Enfin, voilà, ça a été vraiment très dur. Et il y a des phrases que j'ai entendues du type, à ce moment-là, hein, cette période-là. Ah mais c'est bon, passe à autre chose, hein. Ou vous savez les phrases de merde, ou limite 3-4 mois après, les gens ils sont là. Alors les amours, c'en est où? T'es là, va te, voilà. T'as pas du tout envie. Ou des gens qui vont te dire mais écris-lui, dis-lui ce que t'as sur le cœur, montre tout ce que t'as sur ton cœur, mais pas forcément en fait. Enfin, il y a plein de questions du coup comme ça, je sais par lesquelles moi je suis passée. Où je me demandais, est-ce que je lui écris ci, est-ce que je lui écris ça, est-ce que je lui parle comme ci, et puis si je lui parle normalement comme si de rien n'était, est-ce qu'il va mal le prendre et croire que je m'en fous, et si je lui envoie qui me manque et tout, bah en fait, enfin c'est cool, mais en gros, entre guillemets, il s'en fout, tu vois. Enfin, franchement, ou même je vais remuer le couteau dans la plaie pour lui, enfin, je me posais tellement de questions où j'aurais aimé ne pas me sentir seule là-dedans, et ouais, franchement, c'était pas facile. Et d'ailleurs, je voulais dire aussi quelque chose, c'est que perso, la relation que j'ai eue, d'ailleurs, elle m'apprend énormément parce qu'en fait, on a tous les deux des profils quand même insécures. Donc, ça, c'est un sujet dont on parlera aussi. Il y a le type sécure, il y a l'attachement anxieux et l'attachement évitant. Et il y a le mélange des deux qui est le type désorganisé. Et je pense très fortement, à 98%, que nous avons des profils insécures et en plus qui ont. sont opposées. Donc, c'est-à-dire, si tu as suivi un peu mes aventures ici, il y a des choses qui, moi, nous ont vraiment aidées. Je voulais pas dévoiler trop, en fait, je voulais pas trop parler de lui, trop parler de nous, tout ça. Mais c'est vrai que c'est plus facile d'en parler comme ça. Pour ça que j'aime bien dans un endroit plus intime. Mais en gros, dans un couple anxieux évitant, il y a une personne qui va avoir très besoin d'être rassurée, de parler, de communiquer, qui va s'inquiéter au moindre changement de constance. Tu sais, quand l'autre va fuir ou être un peu froid ou moins parler qu'un autre jour, on va très vite être inquiet. Alors qu'une personne évitante, plus elle va ressentir toute cette intensité, cette émotion, cette demande, et plus elle va sentir des attentes, plus elle va fuir, se renfermer et ne pas oser s'exprimer, etc. Donc en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement dur à vivre. Nous, il y a des moments où on a vraiment réussi à trouver des solutions, mais il y a des moments aussi où pas du tout. C'était très compliqué. Et je me suis rendu compte que il faut vraiment être deux pour ça. Et il faut être renseigné. Moi, franchement, je pense qu'on manque sincèrement d'outils sur le couple. Enfin, je veux dire, moi, j'ai eu une relation d'un an et demi, une relation de 3 ans, une relation de 6 ans. Évidemment, j'apprends et je m'améliore à chaque fois. Et puis, j'ai que 27 ans, enfin, ne l'oublions pas. C'était une relation de mes 20 ans à mes 26, du coup. Et en fait, je pouvais pas savoir comment tu communiques mieux avant de faire des erreurs. Je pouvais pas savoir qu'il faut éviter tel reproche. Je pouvais pas savoir qu'une personnalité évitante va par exemple avoir honte ou va interpréter d'une certaine manière. Je pouvais pas savoir que comme quand tu mets deux personnes anxieuses l'une avec l'autre, elles pensent à la place de l'autre et elles savent pas comment faire autrement. En fait, c'est des choses qui sont tellement inconscientes et en mode automatique qu'on ne les connaît pas. Et moi, ça me rend ouf. Je n'aime pas qu'on n'ait pas accès à des connaissances qui nous aident. C'est un truc qui profondément me donne un peu la rage de parler, tu vois, j'ai besoin de m'exprimer sur ça. Et d'ailleurs, il y a un programme où j'en parle pas du tout assez, où je sais même plus lequel c'est. Bon, ça sera un autre jour. Ça sera pour un autre jour, mais où je parle de... Ah si, c'est dans Hypersensible et Hyper Sereine, je crois, où j'ai mis un bonus anxieux évitant. Et dedans, en fait, j'explique un petit peu ce mécanisme qu'on a où chacun pense à la place de l'autre. Et alors ça, c'est un enfer. Là, ça, c'est un enfer. Tout le monde interprète, que machin interprète, que machin nananinana. Du coup, il y a des énormes quiproquos. Et puis quand t'es avec une personnalité évitante, en général, tu vas lui rentrer dedans, ça va le braquer encore plus. Donc ton comportement est pas du tout ouf. En plus de ça, quand vous allez avoir un vrai conflit et que voilà, ça sort, tu vas apprendre des trucs qu'il a pas osé te dire et tu vas être là, mais what the fuck? Pourquoi je sais pas ça depuis 1000 ans? On aurait pu en parler. Enfin, c'est vraiment très compliqué parfois ce sentiment de marcher sur des œufs. Et puis aussi, on nous a pas appris à comment on maintient de la sécurité, une bonne communication. Enfin, franchement, moi j'ai appris tellement là-dessus, je vous jure, c'est ouf quoi. Et ça, ouais, c'est ouf tout ce que j'ai appris. Et il y a aussi le sujet de vivre ensemble. Parce qu'en fait, je crois que vivre ensemble, en tout cas pour un couple insécure, peut vraiment exacerber certaines problématiques. Vraiment. Moi, c'est le ressenti que j'ai, surtout si on n'a pas trop son espace. Je trouve que c'est pas très bon. Et ça, j'aimerais beaucoup, beaucoup en parler. J'en ai déjà parlé avec des personnes parmi vous dans la communauté qui ont fait le choix de ne plus vivre à deux, ou juste de vivre à côté, ou dans des apparts séparés pas loin, pour pouvoir se voir, mais aussi avoir son espace. Et j'ai trouvé que c'était une configuration qui, moi, me parle beaucoup. Je vous avoue que je réfléchis du coup à quel couple je voudrais plus tard. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie d'être en couple aussi? Qui me convient? Quel est mon mode de couple qui me parle? Enfin, je me pose énormément de questions maintenant, forcément. Ça fait très bizarre d'ailleurs, hein. Après 6 ans de relation, on a du mal à... Enfin, on se pose beaucoup de questions, c'est un peu l'inconnu, ça c'est des trucs aussi dont on parlera peut-être dans l'atelier.